Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Métropolez-vous pour l'avant-dernier numéro de la saison. La coupure des vacances scolaires étant maintenant très proche, la culture, la pratique d'activités artistiques sont souvent présentées comme un moyen de créer du lien social et de transmettre des valeurs communes, notamment celles dites du vivre ensemble. On sait, ce n'est pas un lieu commun, que la pratique de la musique est aussi l'apprentissage de la rigueur, de la concentration et de l'assiduité dans le travail. Une espèce d'école de la vie, en somme. Le projet Demos, lancé il y a quelques années par la Cité de la Musique Philharmonique Paris, en est un bel exemple. Demos, c'est un acronyme pour Dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. Il s'adresse à des enfants issus de quartiers relevant de la politique de la ville ou de zones rurales peu dotées en équipements et institutions culturelles. Il favorise leur accès à la musique classique par la pratique instrumentale en orchestre. Ce projet a été déployé sur l'ensemble du territoire national, au sein des régions et sur le territoire de Toulouse Métropole. C'était la deuxième édition en 2024 et nous allons lui consacrer toute cette émission. Et pour vous présenter la deuxième édition du projet Demos dans la métropole toulousaine, j'ai invité Francis Grasse, adjoint à la culture au maire de Toulouse, conseiller métropolitain et membre de la commission culture de Toulouse Métropole, et aussi, entre autres, président de l'établissement du Capitole. Bienvenue à vous aussi, monsieur Grasse, et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour et merci de votre invitation.
J'ai donné un petit aperçu de ce qu'est Demos, mais je vais vous demander de nous écrire plus en détail ce dispositif. Quelle est son organisation au niveau national? On va parler d'abord de ce qui se passe au niveau national. Et quels sont ses objectifs généraux? À qui s'adresse-t-il en priorité?
Le projet Demos, si vous voulez, est un projet que nous avons lancé en 2019. Il a été conçu par la Philharmonie de Paris, vous l'avez dit, en 2011, je crois. Et effectivement, il s'agit de s'adresser à des enfants et de monter avec un groupe, puisque c'est une centaine d'enfants par session, on va dire. Cette session dure 3 ans. Et ces enfants sont encadrés par des musiciens, mais aussi avec la présence d'acteurs sociaux, puisque les enfants sont principalement dans les quartiers politiques de la ville. C'est ça le sens, c'est l'objectif du projet Demos.
Alors les disciplines artistiques concernées, j'ai parlé de la musique, mais c'est au sens large, parce que c'est la musique, c'est le chant, c'est la danse, et je crois que c'est un peu tout ce qui a trait à l'oralité de manière générale. Ce sont ça les principes fondamentaux?
Alors les principes fondamentaux, c'est bien sûr la musique, mais le mot orchestre y est, c'est pour ça que c'est l'Orchestre National du Capitole qui est à la fois l'organisateur et parrain de cette opération Demos à Toulouse. Évidemment, c'est la musique, mais la musique, c'est l'instrument, c'est le chant, c'est le rythme. Évidemment, la danse peut ne pas être loin, mais on est vraiment autour de la musique.
Les subventionneurs, les financeurs de ce projet au niveau national, bon, il y a d'abord le ministère des Cultures.
Alors, si vous voulez, pour expliquer comment c'est financé, je ne vais pas vous donner trop de chiffres, ce n'est pas le but, mais en gros, sur un budget qui n'est pas loin de 300 000 euros, plus de la moitié vient de la Philharmonie de Paris, et la Philharmonie de Paris est elle-même financée en partie, en moitié par le ministère de la Culture et par des mécènes. Et par ailleurs, nous-mêmes, villes et métropoles, nous avons apporté un complément de financement autour de 10%. Et puis, nous avons également des mécènes locaux, comme la CAF, par exemple, ou comme des bailleurs sociaux, différents mécènes. D'ailleurs, globalement, on peut dire, entre les mécènes nationaux et locaux, la moitié du projet Demos est financée par du mécénat. Ça montre qu'il y a un soutien aussi des mécènes pour une opération assez exemplaire. Et je pourrais le développer au niveau de ses résultats, notamment.
J'ai parlé du ministère de la Culture, mais il y a aussi le ministère de l'Éducation nationale, puisqu'on s'adresse à des enfants qui sont encore en école primaire, pour la plupart.
On est évidemment plutôt dans le primaire. Alors l'Éducation nationale n'est pas directement concernée par cette opération, parce que effectivement l'encadrement est fait par l'Orchestre du Capitole, un certain nombre de musiciens professionnels qui encadrent, et par les centres sociaux, puisqu'on est dans différents quartiers. Alors, de la métropole. Alors on a les quartiers de Toulouse, comme les Isards, comme Bellefontaine. On a la MJC Prévert et on a la ville de Blagnac, la ville de Cugnot dans la métropole et une ville qui est hors métropole, qui est Villefranche de Lauragais. Donc vous voyez, on est sur un périmètre assez large et effectivement, les enfants sont pris en main. On a un chef de mission, si on peut dire, mais qui est un chef d'orchestre, Christophe Mangou, qui justement s'est spécialisé dans le travail pour les enfants ou avec les enfants. Et Christophe Mangou fait un excellent travail dans ce cadre de Demos.
Alors vous avez évoqué Villefranche de Lauragais. Il y a un partenaire qui est important aussi dans le projet Demos, c'est le Conseil départemental de la Haute-Garonne.
Voilà, le Conseil départemental de la Haute-Garonne est un partenaire, notamment parce qu'il y a Villefranche de Lauragais, mais enfin, Toulouse est dans le département, je rappelle, évidemment.
Bien sûr.
Et Blagnac et Cugnot également, bien sûr.
Eh bien, merci beaucoup pour cette première présentation globale de ce qu'est le projet Demos et de ses objectifs. Dans quelques minutes, nous allons préciser vraiment comment il est organisé dans le détail dans la métropole toulousaine et même donc un peu au-delà. Ce sera après le flash d'information métropolitaine de Corinne Saint-Félix. Métropole et vous, l'actu.
Et commençons avec une bonne nouvelle, les chantiers des passerelles du Ramier côté Ampalo et côté Saint-Cyprien sont achevés. Des travaux menés dans le cadre du Grand Parc Garonne et l'aménagement de l'île du Ramier. L'île du Ramier doit justement s'ouvrir au quartier et pour ce faire, deux grandes passerelles réservées aux cyclistes et aux piétons ont été construites. Les passerelles passent pour plus d'une centaine de mètres au-dessus de la Garonne, sans appui dans le lit du fleuve. D'un poids de plusieurs centaines de tonnes chacune, elles prennent appui sur des assises ancrées sur les deux rives et sont également soutenues par des haubans reliés à un ou plusieurs pylônes. Deux autres passerelles doivent être construites après 2026. Ces deux passerelles seront ouvertes et inaugurées le samedi 22 juin prochain. Votez pour les idées qui vous semblent les plus pertinentes à réaliser sur Toulouse Métropole et ce dans le cadre du nouveau budget participatif jusqu'au 30 juin. Les Toulousains sont invités à choisir divers projets. Ce sont plus de 1360 idées qui ont été proposées par les habitants dans le cadre de la deuxième édition de la démarche de budget participatif « Mes idées pour mon quartier ». 70% des projets proposés sont à visée écologique. Au final, 8 millions d'euros pour financer les projets qui seront choisis. En 2021, 83 projets ont été retenus et plus de 20 ont déjà été réalisés. Autre concertation lancée cette fois sur l'aménagement des espaces publics autour des stations de la ligne C. D'ici fin 2028, la ligne C du métro irriguera la métropole sur 27 km de La Bège à Colomiers en traversant Toulouse par 16 stations. L'arrivée de la ligne C va faire bouger les quartiers. Tandis que Tisséo creuse encore pour créer les stations, Toulouse Métropole prépare déjà l'aménagement de la surface, les parvis des stations et des espaces proches pour 2028. Des équipes de professionnels à plusieurs casquettes ont été choisies par Toulouse Métropole. Elles réunissent des urbanistes, sociologues, paysagistes, spécialistes des transports. Leur rôle, élaborer un projet urbain en associant les habitants. Une première vague de concertation débutée en mai se déroule jusqu'à fin juin. Et enfin, restons sur la ligne C du futur métro toulousain. Des fouilles archéologiques vont être lancées sur le secteur François Verdier. Dans le cadre de l'aménagement de la future station de la ligne C, une équipe d'archéologues de l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, démarre une fouille archéologique préventive dès ce lundi. Déjà lors du creusement de la ligne B en 2002, une nécropole romaine avait été mise à jour. Les fouilles préventives sur ce secteur dureront 6 mois. Environ. Ces fouilles pourraient permettre de mettre au jour certains vestiges des faubourgs médiévaux et modernes situés à la périphérie orientale de la ville, mais aussi des nécropoles antiques et de l'antiquité tardive, un ou plusieurs fossés défensifs médiévaux, des zones d'activité artisanale antiques et médiévales, ou encore les voies romaines ou médiévales qui franchissaient la porte orientale dans le rempart et donnaient accès à l'est de Toulouse. Bref, une affaire à suivre.
Merci à Corinne Saint-Félix pour ce flash d'information métropolitaine et pour ce petit détour par l'actualité de notre territoire. Francis Grasse, il y a la dernière information que vous devez regarder de près, je suppose. Donc les fouilles archéologiques, les fouilles préventives, comme à chaque fois qu'on creuse une nouvelle ligne de métro à Toulouse. Et en général, on tombe sur des choses plus ou moins intéressantes. Est-ce qu'on soupçonne des choses qui pourraient se trouver sur le trajet de la future troisième ligne ?
Je dirais soupçonner toujours, si on a ces fouilles à cet endroit, c'est qu'on pense, par la connaissance que nous avons déjà, qu'il pourrait y avoir des choses intéressantes. Alors évidemment, moi je me suis impliqué sur les trois lignes de métro, et à chaque ligne de métro, que ce soit la A, la B, maintenant la C, on a toujours appris des choses nouvelles sur Toulouse. Vous savez que l'archéologie, C'est comme d'autres domaines, comme l'astrologie, la biologie. Les progrès scientifiques font qu'on a des moyens d'investigation de plus en plus perfectionnés et qu'on continue à apprendre sur l'histoire, sur notre passé. Je rappelle qu'on a un musée d'archéologie, Saint-Raymond, et que tout ça, c'est pour pouvoir le mettre en valeur et améliorer la connaissance de ces périodes ou antiques ou plus récentes, au Moyen-Âge ou après. Voilà, donc on a beaucoup d'intérêt à suivre ces recherches.
Et je crois qu'on tombe même parfois sur des fossiles qui sont encore plus anciens, qui oui. peuvent être parfois préhistoriques même.
On peut
aussi finir au muséum cette fois-ci.
À ce moment-là, c'est plutôt le muséum sur la préhistoire. Mais effectivement, on peut trouver des choses de toute nature. Là, on est plutôt sur la partie ou antique ou médiévale. Mais rien n'est interdit, on verra bien. C'est toujours des périodes passionnantes.
Mais c'est souvent, oui, effectivement, passionnant. Bien, merci pour ces réactions à l'actualité métropolitaine. On revient maintenant au sujet principal de cette émission, la deuxième édition du projet Demos dans la métropole toulousaine.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Seconde partie de Métropole et vous avec l'invité de ce numéro, Francis Grasse, adjoint à la culture au maire de Toulouse, conseiller métropolitain, membre de la commission culture de Toulouse Métropole et président de l'établissement du Capitole. Donc le projet Demos dans la métropole toulousaine, si l'on revient aux origines, donc il a été lancé en 2019. On a commencé à y penser en 2019, mais en fait le vrai lancement, ça a été plutôt 2022.
Non, c'est 2019, parce que le dispositif existait déjà à Paris depuis longtemps. Il s'était développé dans plusieurs villes en région. Et effectivement, vous savez que nous avons, au titre de l'Orchestre du Capitole, l'Orchestre National du Capitole, un lien privilégié avec la Philharmonie de Paris, puisque l'Orchestre du Capitole est invité régulièrement, 2 à 3 fois par an, à la Philharmonie. Donc il était logique qu'on en parle. Le dispositif, nous avions des questions, des interrogations. On ne voulait pas que ça soit simplement une sorte d'élément de communication, mais vraiment un travail en profondeur. Donc nous avons décidé de le faire en 2019. Donc la première session, ça dure 3 ans. On prend des enfants et on les accompagne pendant 3 ans. Il se trouve que cette première session a été quand même un peu perturbée par le Covid.
Et oui.
Ça, tout le monde s'en souvient, 2020, donc au milieu. Néanmoins, nous avons toujours continué, malgré les confinements d'hiver, nous avions adapté les méthodes et la session s'est passée. Et donc, à la fin de cette première session de 3 ans, nous avons décidé de le reconduire pour une nouvelle session qui, effectivement, a commencé en 22. Alors évidemment, en 22 à 25, on a un peu plus d'expérience, un peu plus de connaissances. Et en tout cas, le bilan que nous avions fait de la première session était très positif. C'est pour ça qu'on a décidé de le reconduire.
Alors, ce qu'on n'a pas précisé, c'est comment sont, entre guillemets, sélectionnés, choisis les enfants qui participent au dispositif Demos. C'est au volontariat avant tout.
Oui, alors les quartiers sont déjà définis. Après, c'est une sorte de volontariat des enfants, mais aussi des familles, des parents. Tout ceci étant suivi par les centres sociaux des différents quartiers concernés. Donc, évidemment, si on n'a pas envie de le faire, il ne faut pas y aller. Mais toujours est-il que nous voyons que le dispositif fonctionne bien. Parce que quand nous réunissons les enfants, notamment régulièrement nous faisons quelques concerts ou quelques manifestations, bien les parents sont là. Et on voit que c'est quelque chose qui entraîne les familles. Et au fond, pour ces enfants, il y a un effet à la fois personnel, scolaire et familial, social. On touche différents champs grâce à la musique.
Oui, parce qu'évidemment, c'est très valorisant de participer à ce dispositif, aussi bien pour les enfants, mais aussi pour les familles dont les enfants sont engagés dedans.
Absolument, parce que ce que nous avons observé dans la première session, et évidemment confirmé par la deuxième, c'est l'implication des enfants. Il est vrai que quand on leur remet un instrument, donc on leur donne un instrument...
Qui est fourni par qui d'ailleurs ?
Qui est fourni par nous, par le dispositif Demos. Si vous voulez, dans le financement, nous avons les instruments, quand je parlais de budget. Ces instruments, le moment où on leur remet l'instrument, c'est quelque chose de très symbolique, de très émouvant. Et ensuite, il y a l'attachement aussi, bien sûr, à l'instrument, à la musique. Mais ce que tout le monde observe, c'est que le comportement de ces enfants évolue. Parce que Demos est caractérisé par un travail en groupe. Ce n'est pas de l'apprentissage d'un instrument en solitaire, comme on peut le faire dans l'apprentissage classique de la musique.
Et oui, parce que le but, c'est qu'ils arrivent à jouer en orchestre à un moment donné.
Il faut à la fin
donc,
faire
dès le
un
départ,
orchestre.
Dès le départ,
donc,
il y a cet
dès
aspect
le départ,
collectif.
Il y a un niveau collectif. Et effectivement, tout le monde dit que leur comportement, y compris à l'école, change. La capacité à vivre en groupe, la capacité à travailler en équipe, une affirmation personnelle qui s'améliore. Et puis,
oui, parce qu'il y a un aspect responsabilisation. On a son rôle à jouer dans l'orchestre.
Absolument. Chacun a son rôle. Tout ça, c'est ça. L'orchestre, c'est une sorte de grande équipe où chacun a sa part. Et puis chaque groupe instrument, il faut vivre aussi en collectif. Et on voit bien que tout ceci valorise les enfants, valorise les familles. L'objectif de Demo, c'est bien sûr d'attirer vers la musique et vers l'enseignement musical des enfants ou des familles qui pouvaient en être éloignés. Parce que souvent, on observe que, vous savez, les conservatoires, beaucoup d'enfants sont des fils de musiciens ou filles musiciens.
Oui, très souvent.
Ou de gens qui ont appris la musique. Donc on a une sorte de reproduction spontanée. Or, il est extrêmement important que la musique se développe et les anciens artistes dans tous les domaines. Il faut savoir aussi que l'Orchestre du Capitole, pourquoi on est impliqué, c'est que l'orchestre, ça c'est ce qu'on voit moins, est très impliqué auprès des publics scolaires, parce que les publics de demain, ils commencent à l'école.
Ben c'est vrai, c'est une grande question dans le milieu culturel, et notamment dans le milieu de la musique classique, c'est comment on arrive à renouveler le public aussi.
Mais bien sûr, c'était quelque chose de fondamental, et aujourd'hui, la présence artistique dans les écoles est absolument essentielle, et je dirais, pour la musique en général, pas que la musique classique, la musique, c'est les musiques en général. Toute musique est bonne parce que c'est un élément fondamental de son éducation personnelle, de son ouverture en général.
Sur l'organisation et l'enseignement que reçoivent les enfants donc, qui sont impliqués dans le projet Demos, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a des professionnels de la musique qui les encadrent. Vous avez parlé de Christophe Mangou, mais d'autres. Mais aussi, je crois, des professionnels du domaine social.
Oui, je crois que c'est ça qui caractérise Demos. C'est les acteurs sociaux, d'une part, et les acteurs musicaux, que sont des musiciens professionnels. Tout ceci coexiste et c'est ce qui fait que ça fonctionne, finalement. Et nous faisons régulièrement des réunions de tous ces acteurs. Et moi, j'ai pu constater l'implication des acteurs sociaux qui sont extrêmement intéressés et impliqués eux-mêmes dans cette opération.
Donc, il y a des ateliers. Ils se retrouvent dans des ateliers. Ça se passe évidemment en dehors des établissements scolaires. Et ça se passe dans les centres sociaux, essentiellement. Vous les avez cités. Hein,
le oui, alors j'ai cité Bellefontaine, MJC Prévert, le Centre Renan, Blagnac, Audi Sud, ça se passe.
Muret, je crois aussi.
Muret, il y a eu Villefranche d'Orlarguet. Enfin, à chacun, Cugnot, hein, bien sûr.
Centre social mosaïque à Cugnot.
Voilà, à Cugnot. Donc, ils se réunissent par petits groupes, alors c'est réparti par pupitre d'instruments.
Par instrument, voilà.
Voilà. Et puis, il y a régulièrement des regroupements complets et que nous faisons souvent à la Halograin, ce qui fait que beaucoup de familles et d'enfants sont rentrés à la Halograin parce qu'ils avaient peu l'occasion, ou peut-être même pas l'idée, d'y venir. Et donc, ils sont dans le lieu de l'Orchestre du Capitole, c'est très important.
Mais je pense que ça démystifie aussi un petit peu cette espèce de barrage. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas rentrer dans
oui,
cette...
Oui, bien sûr.
Parce que ce n'est pas pour eux.
Ils pensent que ce n'est pas pour eux, c'est pour ça qu'on invite, pour beaucoup de générales, que ce soit à l'opéra ou à l'orchestre, beaucoup de classes, d'enfants, on fait un très très gros travail, et nos musiciens sont impliqués dans ce travail, parce que ça leur tient à cœur également. Donc effectivement, on est dans cet établissement qu'est la Halograin, et puis, chaque fois, à la fin de la session, l'Orchestre Demos de Toulouse est invité à la Philharmonie de Paris. Donc c'est un élément, ça se passera le 21 juin, 2025, je vous donne déjà la date, ce sera le jour de la fête de la musique 2025.
Oui.
Effectivement, pour tous ces enfants, c'est aussi pour certains un voyage à Paris. Découvrir Paris et jouer dans la philharmonie que l'Orchestre du Capitole connaît bien, qui est un lieu à l'acoustique formidable, et c'est un des lieux importants de la musique.
Alors non seulement les enfants montent à Paris pour ce concert à la Philharmonie, mais les parents les suivent.
Mais les parents. Et nous avons réussi la fois dernière, en 21, à inviter les parents à trouver un financement par là aussi des mécènes pour que tout le monde puisse aller en famille à Paris.
Alors ce qui se passe aussi, c'est qu'avant les concerts de restitution, les grands concerts finaux, que ce soit à la Halograin ou à la Philharmonie de Paris, il y a des concerts de poche, on va appeler ça comme ça, sur le territoire respectif d'où proviennent ces enfants au cours de l'année.
Oui, bien sûr, parce que je prends l'exemple de Blagnac, on va faire un prochain concert Demos à Blagnac à la rentrée. Chacun peut organiser des opérations de proximité, on va dire, chacun dans son quartier. Et évidemment, ça a beaucoup de sens et ça crée aussi du rayonnement, je dirais, sur cette action. Et c'est aussi le volet social de cette opération à la fois culturelle, musicale. On réunit tous ces aspects-là dans Demos.
Le concert donc a eu lieu le 26 mai, hein, donc c'est tout récent, à la Halograin. Est-ce qu'on peut peut-être donner à ceux qui nous écoutent le programme qu'ont joué les enfants pour montrer que ce n'est pas des petites œuvrettes, hein, c'est vraiment
non,
des choses sérieuses.
Il me semble de mémoire une gymnopédie de Satie, il y avait l'enlèvement au Serail. Il y avait
l'ouverture de l'enlèvement au Serail.
L'ouverture. Puis après, on était parti sur des musiques du monde, des musiques brésiliennes, très dansantes, avec le public tout autour. On a fait participer aussi les parents, parce qu'il y a aussi une chorale des parents. Vous voyez, il y a toute une implication qui se fait.
C'est intergénérationnel.
Ça crée intergénérationnel, puis ça implique vraiment les parents. Il y avait une ambiance de folie à la Halograin. C'était vraiment un bon moment.
C'était rempli ?
La halle au grain était remplie, évidemment.
Je rappelle qu'il y a plus de 2000 places quand même.
Oui, oui, c'était...
Ça donne une idée du succès de cette initiative. Oui. Si on fait un bilan sur l'édition actuelle, donc qui est la deuxième, il y a eu 2019-2022, là on est sur 2022-2025, qui rend encore la troisième année, et donc le concert à la Philharmonie de Paris qui va clore donc ce nouvel épisode de Demos en juin 2025. Si on fait un bilan, peut-être une question, est-ce que les enfants ont été vraiment assidus? Est-ce qu'il y a des abandons parfois en cours d'année?
Il y a quelques abandons, mais si vous voulez, au départ on part sur une centaine d'enfants. Et actuellement, je crois qu'on est un peu plus de 90, donc il y a quelques abandons, ça peut se concevoir, si vous voulez.
Ça arrive, je pense, dans n'importe quelle aventure de ce
genre.
Mais
vous voyez, elles sont assez faibles. Mais ce qui est surtout important, tout à l'heure, je vous ai dit que ça avait un effet important sur le comportement des enfants et des familles. Donc il y a une affirmation personnelle, un apprentissage, pas que de la musique, de la vie en groupe, etc. Mais surtout, un des bilans qu'on a tiré, c'est qu'à la fin de la première session, 70% des enfants ont engagé des études musicales.
Oui.
Et il faut savoir que la moyenne nationale est à 50%. Donc, on voit qu'à Toulouse, ça a bien marché de ce point de vue-là. Ils ont engagé, je faisais le point récemment avec les ateliers musicaux de Saint-Cyprien qui ont pris beaucoup d'enfants. Et constat, c'était que ces enfants étaient justement très habitués à travailler en groupe, ce qui n'est pas toujours le cas des enfants qui viennent pour la musique uniquement, pour apprendre un instrument. Il y a vraiment une caractéristique des enfants anciennement Demos. Et ce qui est réconfortant, c'est que, alors, jusqu'où ils iront, on ne sait pas, études musicales, certains peut-être iront dans un domaine professionnel, peut-être simplement ils auront gardé la pratique
amateur,
de la musique.
Amateur
en pratique amateur, et c'est très important. Et certains seront simplement des amateurs de musique. Tout ça, on est gagnant partout.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les enfants peuvent effectivement continuer la pratique de leur instrument au sein des structures d'enseignement musical qui sont partenaires de cet événement Demos, mais en plus, ils conservent leur instrument.
Oui, c'est-à-dire
que non seulement vous leur mettez à disposition, mais
ils peuvent
c'est
le conserver,
leur,
ils
peuvent le conserver
pour,
s'ils poursuivent.
S'ils poursuivent.
C'est-à-dire que s'ils ne poursuivent pas, par contre, ils le restituent.
Oui, logiquement, mais le but, c'est de faciliter, vraiment. Il y a aussi un système de bourse pour aider les familles. Donc le but, c'est vraiment de faciliter la poursuite à tous ceux que je souhaite.
Le projet Demos, donc, deuxième édition, la fin en juin 2025, est-ce qu'il est appelé à s'inscrire dans la durée tout de même? Je parle de la métropole et du département, là. Est-ce que ce sera sous la forme actuelle ou est-ce que ça pourrait être sous une autre forme? Est-ce qu'il y a une réflexion qui est menée en ce sens?
Oui, je suis en train, avec les équipes de l'Orchestre du Capitole, du Conservatoire, de Demos et centres sociaux, de mener une réflexion là-dessus. Pourquoi? La Philharmonie de Paris aide les orchestres en région deux fois, donc sur deux sessions. En pratique, normalement, au bout de la deuxième, c'est fini. Or, au travers du bilan que nous faisons, nous pensons que ce dispositif a de l'intérêt. Donc, nous réfléchissons à trouver une formule qui permettrait de poursuivre, alors peut-être exactement ou pas sur le modèle Demos, mais nous discutons aussi à la Philharmonie, parce que nous aimerions, bien sûr, que la Philharmonie reste notre partenaire. Donc, voilà, c'est en réflexion et nous voudrions, à la rentrée prochaine, être en capacité de dire comment nous pouvons éventuellement poursuivre après 2022 pour une éventuelle troisième session.
Et le département serait aussi partant pour poursuivre?
Ça, je ne le sais pas, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'engagement du département sur le sujet. Évidemment, nous les souhaiterions, parce que nous pensons que le département a vraiment sa place pour soutenir la culture. Ce n'est pas toujours le cas. Et là, il l'a fait, donc c'est bien. Parce qu'aujourd'hui, le département n'aide pas l'Orchestre du Capitole, par exemple. Donc, on verra bien. Mais nous, côté métropole ou côté ville de Toulouse, après, on verra Blagnac.
Oui, parce qu'il y a les communes qui actuellement
sont impliquées.
Parce
qu'aujourd'hui, en tout cas, sur la ville de Toulouse, nous souhaiterions poursuivre. Après, on verra si au niveau de la métropole, nous pouvons le faire. C'est en cours de réflexion.
Il y a tellement d'incertitudes dans beaucoup de domaines actuellement. Que
c'est exact. En ce moment, on ne peut pas dire que...
On puisse voir à très long terme.
On voit à très long terme, mais vous savez...
un peu bouché.
L'horizon est peut-être bouché, mais ceci étant, dans cet horizon bouché, s'il y a une bataille à mener, c'est celle de la culture. Parce que la culture ne doit pas être le...
parent pauvre et le...
Ni le parent pauvre,
la variable d'ajustement, comme on dit.
La variable d'ajustement de difficultés économiques diverses, parce que la culture, c'est toujours les enfants, l'avenir, et c'est ça qui crée le lien social. On est dans ce cas-là, dans Demos.
Et là, on parle de la culture auprès des jeunes. Hein.
C'est le cas.
C'est de ça que l'on parle précisément. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Francis Gras, d'en avoir été l'invité, de nous avoir fait ce retour sur la deuxième édition du projet Demos dans la métropole toulousaine. Une initiative donc, qui se prolonge l'an prochain. Il y a une description du projet sur le site de Toulouse Métropole, www.metropole.toulouse.fr, ainsi que sur celui de l'Orchestre National du Capitole, www.onct.toulouse.fr. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Jonathan Botello. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Très bon week-end à tous.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.